carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
L'exposition Lucien Clerc-Yann Arthus-Bertrand, deux photographes académiciens, est le titre de l'exposition du musée Marmottan-Monet, présentée du 28 mai au 20 septembre 2009. Pour la première fois, le musée qui abrite la plus importante collection des œuvres de Claude Monet, des toiles du 19e, du mobilier et des objets d'art de la période napoléonienne, ouvre ses portes à la photographie. C'est l'occasion de mettre en rapport peinture et photographie, noir et blanc et couleur, dans l'écrin à taille humaine du très beau musée Marmottan-Monet à Paris. Le 27 mai, Lucien Clerc, Anne Clerc et Yann Arthus-Bertrand étaient sur les lieux et nous conduisent chacun leur tour dans cette exposition. Deux regards différents se dévoilent, deux photographes mais aussi deux générations, que la Camargue, la terre natale de l'un et Paris vue du ciel pour l'autre, réunissent le temps d'une exposition. Retrouvons Lucien Clerc.
Lucien Clerc, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes au musée Marmottan. Le musée Marmottan organise une très belle exposition, l'été contemporain à Marmottan, et rend honneur à deux académiciens de l'Académie des Beaux-Arts, Lucien Clerc et Yann Arthus-Bertrand, en organisant deux magnifiques expositions. L'une vous est consacrée dans les étages du musée, où sont exposées une centaine de vos photographies, dans un lieu magnifique. On découvre vos premières photographies en vis-à-vis des nymphéas. On est assez ému entre ce noir et blanc qui rappelle beaucoup de choses, l'eau et puis toute la couleur derrière nous. Qu'est-ce que ça vous a fait de les voir exposés comme ça ?
Eh bien, c'est vrai que lorsque je suis venu pour vérifier un peu les lieux et voir comment organiser cette exposition, lorsque j'ai vu qu'en montant les escaliers, on était déjà environné par ces grands tableaux de Monet, je me suis dit qu'il faudrait faire le même format en noir et blanc de ce que j'avais fait il y a 50 ans, très influencé par justement toutes ces choses de Monet. J'avais vu aussi l'année dernière les jardins de Giverny. Et donc, voilà, donc c'est un travail qui est vraiment inspiré par Monet. Alors, il y a une chose, moi, qui me trouble beaucoup, parce qu'on a rapporté que Picasso aurait dit de moi, à une époque, Lucien Clerc est le Monet de la caméra. Je ne peux le garantir parce qu'il ne me l'a pas dit, il ne me l'a pas dit à moi, mais il a peut-être dit à quelqu'un qui l'a fait suivre. Voilà.
Alors là, on découvre vos premières, enfin pas vos premières, mais enfin des photographies qui font partie de vos premières séries, oui. En particulier sur votre Camargue, oui. Sur votre terre natale. Ce sont des tirages que vous avez refaits pour l'exposition ?
Alors là, les trois tirages qui sont dans le palier central par lequel on arrive depuis le rez-de-chaussée, sont des tirages récents qui ont été faits pour la circonstance et pour s'adapter au format de Monet. Mais dans la grande salle, qui est tout de suite à l'entrée à droite de ce qu'on vient de voir, à part les grands formats qui sont des formats récents, tout le reste ce sont des tirages d'époque, c'est-à-dire des années 60, sur un papier qui n'existe plus malheureusement, qui s'appelait Lumière Élysée, et qui était un papier très riche en sel d'argent. Nous n'avons plus cette qualité-là, enfin nous avons autre chose, il ne faut pas regretter le passé, mais c'est vrai qu'il y a une émotion, il y a pour les connaisseurs, enfin ceux qui sont un peu spécialistes, ils comprendront ce que je veux dire. J'ai été très ému, je dois dire, parce qu'il y a quelques jours, je suis allé à Vauvenargues pour l'inauguration de l'exposition Picasso-Cézanne, et dans le château de Vauvenargues, tout d'un coup, il y avait sur un pupitre la boîte papier Lumière Élysée dans laquelle j'avais envoyé mes photos à Picasso. Alors là, j'ai été soufflé. C'était là, parce qu'ils ont tout gardé comme c'était, comme ils l'avaient laissé. Et vraiment, j'étais très ému. Donc voilà, ce papier Lumière Élysée, que la France a eu le tort de laisser partir, parce qu'ils se sont vendus aux Anglais à Ilford, et quand on a un nom comme Lumière,
Élysée,
on ne le laisse pas partir. Et Lumière Élysée, on est compte ? Voilà. Donc c'est la Camargue, c'est le pays de ma mère, c'est le pays de mon père, et moi je suis né à Arles, mais c'est la capitale de la Camargue. Et donc c'est une variation sur... Alors il y a parfois des choses anthropomorphiques, on voit le taureau fait en marchant des craquelures dans le sable, où on voit le visage d'un homme, ou même la nature elle-même se craquelant, c'est aussi tout ça, quoi. Il y a une relation avec l'humain, avec des monstres, avec... Il y a même un lop-lop de Max Ernst qui pourrait être identifié. Puis c'est le règne du sel. Il y a cette coquille de sel là, qui est éphémère puisqu'elle va disparaître. Un petit coup de Mistral et on ne verra plus rien. Mais j'ai eu la surprise un jour de rencontrer un monsieur qui était très fervent, très religieux et qui avait au-dessus de son lit un crucifix qui m'a dit « Je vais l'enlever, je vais mettre à la place votre mousse de sel parce que là, je vois vraiment l'Esprit Saint. » Alors je savais que tous les soirs, un monsieur faisait sa prière au pied de ma photo.
Donc c'est une photographie donc, qui s'appelle « Mousse de sel voilà. » Camargue, 1965, c'est un tirage argentique qui a une forme tout en mouvement, là en spirale, quelque chose d'éphémère qu'on ressent tout de suite. Vous vous souvenez quand vous avez pris cette photo, monsieur Claire ?
J'étais très ému parce que je voyais ça, je me disais pourvu que ça reste le temps que je fasse la photo, parce que ça bouge, il y a de l'eau, il y a du vent et tout ça va disparaître, mais c'était parfaitement construit, quoi. On ne peut pas rêver une plus belle construction, on dirait que ça a été dessiné par quelqu'un. En plus, c'est supporté par un peu de terre limoneuse et ça fonctionne, quoi. Ben, voilà, c'est ça les miracles de la photographie. Alors, il y a des choses qui sont immuables, qui restent, et bon. Mais ce qui bouge, c'est très intéressant et c'est surtout, évidemment, tout le problème, c'est la lumière, puisque, après tout, c'est la définition de la photographie, écriture avec la lumière. Et en particulier, dans cette grande image-là que je. Qui,
moi, soleil sur l'eau.
Mes dada, si vous voulez. C'est le ciel étoilé, quoi. Enfin, c'est le cosmos. Et il se trouve que nous allons faire le 3 octobre, nous allons participer à la Nuit Blanche avec, à l'Observatoire de Paris, une projection sur la façade de photos de cosmos et de photos de ça, et aussi de nus quand même, parce que les nus étoilés aussi, ça les fait rêver les astronomes. Voilà. Donc on est là dans ce règne, finalement, le règne du sel. Il y a une petite salle plus graphique, qui est celle des maïs, des vignes et des rizières en hiver, qui sont très précisément de l'année 1960. C'est un peu un symbole de liberté parce que je venais de quitter l'usine où je travaillais et j'étais enfin tout à fait libre. Donc cette année-là, 1960, je me suis déchaîné avec mon vélo Solex. J'allais tout autour d'Arles et vers la Camargue pour photographier ces formes qui sont aussi éphémères puisque ça ne dure pas longtemps. On a le droit en Camargue d'inonder les vignes pendant 40 jours pour le phylloxéra, parce que nous sommes un pays plat. Alors voilà, quoi. Donc, c'est là.
Ce sont les vignes inondées, des souches de maïs voilà. Qui se meurent.
Le maïs après la tempête qui se déchaîne et qui devient autre chose.
Quoi. Il y avait une volonté d'organiser ce parcours-là de l'exposition autour des quatre éléments.
Mais oui, bien sûr, c'est ça l'idée, c'est la vie, la mort, les quatre éléments en Camargue, unité de lieu. Donc ça, évidemment, ce sont des photos plus anciennes, si vous voulez, mais... Pour beaucoup de gens, toute une génération ne les a pas vues, ces photos. Donc je pense que c'est bien, mais c'était surtout, dans mon esprit, établir ce rapport avec Claude Monet. Je suis sûr qu'il aurait aimé ça, parce que c'est quelque chose qui le rejoint, quoi, quelque part.
Puis la peinture vous a beaucoup inspiré aussi.
Et il faut dire que mes maîtres n'ont pas été les photographes, ça a été les peintres. Donc moi, j'ai appris avec les peintres. Voilà. On est dans cette grande salle qui est... Il y en a qui disent que la Camargue est un pays suicidaire. On a eu des trucs spectaculaires. Il y a un torero qui n'était pas une star, mais enfin, qui était un torero qui en avait envie, qui s'est suicidé dans son costume de torero, dans les marais de Camargue. Ah oui, c'est un pays. Et alors, on débouche sur ce que M. Taddei, mon confrère et directeur du musée ici, appelle le couloir de la mort. Là, ce sont tous les cadavres d'animaux que j'ai photographiés dans les années 50. À l'endroit, dans le cas d'Arles, à l'endroit même où Van Gogh avait posé son chevalet pour faire Arles la nuit, le fameux tableau du musée d'Orsay. Et donc, je me suis retrouvé là dans les mêmes circonstances, mais deux jours.
Avec aussi une période de votre vie
oui,
triste.
Oui, et alors, je trouve qu'en 1956, il y a un hiver terriblement rigoureux, où le thermomètre est descendu à moins 26. Et les Flamands sont morts gelés sur la plage de Camargue. Et je suis allé avec des amis les photographier. Voilà, donc,
C'est une période, ça a duré longtemps cette période?
Ah ben, c'est une période très triste pour moi parce que c'était peu après la mort de ma mère. J'avais des tas de... J'étais pas très heureux. Quoi. Puis, vous savez, c'était... On était encore au milieu des ruines de guerre d'Arles, 10 ans après les bombardements. C'était toujours là.
Très
ça
présent.
Semble incroyable, quoi, des trucs pareils. Qui...
Elles sont toutes célèbres, mais une, peut-être qu'il est un peu plus que les autres plus connues.
Oui, ce flamand mort, là, et celle-là est assez emblématique. Ce qu'il y a eu d'assez étrange, c'est que un jour, je devais aller dîner avec Jean Cocteau et Max Ernst. Et Cocteau m'a dit, apporte tes photos, on les montrera à Max Ernst. Et j'ai montré ça à Max Ernst. Pour dire la vérité, ces flamands, pour moi, c'était très influencé par les tableaux de Max Ernst qui s'appellent « Le jardin Gobavion ». Et alors je lui ai montré, je lui ai dit, écoutez, j'avoue que les jardins Gobavion... Et il m'a dit, combien ça vaut? Alors, on ne savait pas les prix, on ne vendait pas de photos à l'époque. Mais je lui ai dit... Écoutez, il y a un livre chez Gibert de vous, et il coûte 150 francs. Donnez-moi 150 francs, je vais l'acheter, vous me le signerez. Et là, après, je l'ai déposé chez lui, et Dorothée Tenning me l'a renvoyé avec un très beau dessin de Max Ernst, un petit lop-lop, justement. Voilà. Alors ici, c'est une salle qui nous a été donnée en plus, donc on l'a meublée en vitesse, mais avec des choses aussi très émouvantes. Par exemple, la première photo, peut-être la première bonne photo que j'ai faite, qui sont les souliers en hommage à Van Gogh, dans les maisons abandonnées au bord du Rhône. Voilà, ça a été, vous voyez, c'est 1953. C'est l'année où je rencontre Picasso, c'est une année décisive, oui, déterminante. Mais oui, par exemple, quand j'allais au travail, pour aller à l'usine où je travaillais, un jour, il y avait le cadavre d'un rat sur la route, j'ai vite fait la photo.
En fait, cette photo de l'hommage à Van Gogh est entourée de petites tirage,
oui.
Effectivement, en lien avec cette année-là.
C'est les mannequins du chiffonnier qui étaient aussi assez inspirés par Giorgio de Chirico, puisqu'il a beaucoup utilisé ce genre de choses. Et on retrouve aussi ce genre de choses dans les souches desséchées sur la plage, ce qu'on appelle, nous, les bois rejetés de la mer, et qui sont vraiment calcinés par le sel, quoi. Voilà. Alors là, j'ai mis dans une vitrine des éléments assez flatteurs, évidemment, puisqu'il y a le texte de Roland Barthes sur le langage des sables qu'on verra plus tard, et qui fut la thèse que j'ai soutenue de l'Université de Marseille-Provence.
Barthes, que vous avez rencontré, qui faisait partie du membre du jury de votre thèse. Ouais, et qui...
Et puis les très belles dédicaces de Saint-Jean-de-Perse, qui m'ont permis d'y croire encore plus. Voilà, il était très enthousiaste. Et la lettre, on voit là le facsimilé de la lettre à Gaston Gallimard pour essayer de le convaincre de publier le livre que nous avons fait plus tard sous le titre de Genèse. Vous savez, ça fait bizarre parce qu'on se dit, on va chez un éditeur avec un prix Nobel de littérature et on vous dit oui tout de suite. Non, ça a pris 8 ans. Ça a pris 8 ans pour faire ce livre. Ça semble incroyable, quoi. Moi, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, ce type, il a pris Nobel de littérature. Et, bon, non, ils avaient peur. Les photos leur faisaient peur. Ça coûtait cher. C'était ci, c'était ça. En Genèse, le premier tirage s'est vendu en 3 mois. Alors ça a été la stupéfaction pour tout le monde, en particulier chez Belfort. Mais chez Gallimard, ils n'en revenaient pas. C'était un public inattendu pour Saint-Jean-de-Perse. Donc, j'étais ravi pour lui. Voilà.
Alors, de Saint-Jean-de-Perse, là, il y a une dédicace pour Lucien Clergue, qui doit à sa loyauté et à son abnégation un art, la visitation du vrai mystère créateur Saint-Jean-de-Perse. C'est toujours une dédicace de Saint-Jean-de-Perse pour Monsieur Lucien Clergue, qui cherche la face du destin sous les masques les plus fidèles de ce monde, amicalement. Et c'est la presqu'île de Gien, 1967. Voilà. Il y avait de quoi être heureux, quand même.
C'était formidable, quand même.
Ouais. Sur cette expérience aussi.
Il y a même une petite lettre de Jean Hugo, l'arrière-petit-fils de Victor Hugo, qui m'avait fait une très belle lettre après ma première visite chez lui en 1956, à propos des animaux morts.
Oui.
Voilà, il lit en particulier les animaux morts qui sont exposés là. J'avais déjà vu à Castille l'admirable chat échoué, mais j'aime peut-être encore mieux le chat momifié, semblable à une chauve-souris ou à un spectre pris par le soleil levant, l'alphabet kabbalistique des flamands, etc. Alors tout ça, c'est émouvant parce que ce sont des gens qui m'ont aidé, qui m'ont permis d'y croire et d'aller plus loin. Voilà. Alors là, on est en direction d'une salle extrêmement dure qui est celle des taureaux morts.
On rentre dans une petite arène.
Voilà, c'est une rotonde qui semble avoir été faite pour
vous. Pour vous.
Oui. Et donc le prétexte, c'est cet admirable et très court poème de René Char, qui est dans un petit ouvrage qui avait fait Les Quatre Fascinants.
Le taureau, il ne fait jamais nuit quand tu meurs, cerné de ténèbres qui crient, soleil aux deux pointes semblables. Fauve d'amour, vérité dans l'épée, couple qui se poignarde, unique parmi tous. René Char.
Voilà. Alors je voulais le faire du vivant de René Char, ça n'a pas été facile. Donc on l'a fait après sa mort, en accord avec sa veuve. Et là, c'est idéal. Quoi. Ça, vraiment, je n'ai jamais eu un lieu semblable pour exposer cette suite.
Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 photographies, 5. On voit rarement le taureau aussi près.
Il faut dire aussi que ce sont des circonstances qui n'existent plus. C'est-à-dire qu'on avait le droit à l'époque de photographier par-dessous la barricade. Et j'ai une vision que personne n'a. Le public ne voit jamais ça. Et puis maintenant, on a bouché ce lieu. Ça, on n'a plus le droit de le faire. Et de toute manière, je pourrais me mettre à genoux, mais je pense que je ne pourrais plus me relever. Alors donc, ça m'arrange. Voilà, il faut un temps pour tout. Alors là, nous avons encore les sables, le langage des sables, donc, qui a été l'objet de la thèse. Et nous avons pu en mettre quelques-unes, dont les deux grands formats qui sont là. Voilà. Et puis là, alors donc, c'est les nus. Alors, j'ai fait un petit hommage à ce premier livre, qui était le livre publié il y a plus de 50 ans maintenant, sur les poèmes d'Éluard.
Corps mémorable.
Corps mémorable. Donc ça, c'est une couverture de Picasso.
Alors, propos de corps mémorable, c'est la gouache là, oui, que Picasso a faite pour votre ouvrage quand vous l'avez présenté. Voilà, voilà, donc c'est un sein, quelques
là,
formes.
Et j'ai mis le portrait de Paul Éluard par Valentine Hugo, qui devait illustrer le livre et que, malheureusement pour elle, mes photos ont balayé. Là, il y a un texte de Cocteau, là, il y a un dessin de Cocteau sur la première édition du livre.
Cocteau que vous avez aussi connu, qui vous a rencontré,
Cocteau
qui a été aussi...
aidé, évidemment. C'est Picasso qui m'avait envoyé chez lui. Et il a écrit un très beau poème aussi pour...
On va le lire pour, voilà, tout à l'heure.
Il est exposé dans la... Alors, il n'y a qu'une photo couleur dans l'exposition, c'est ce Polaroid.
Les deux sœurs.
C'était pour montrer simplement les différentes techniques, si vous voulez, utilisées dans la photographie. Voilà. Ça, ce sont toutes la
Et suite. Ça, ce sont les tirages originaux.
Ce sont les tirages modernes, mais de ces photos de corps mémorables. Et là, c'est la grande salle des nus, avec, entre autres, la vitrine sur corps mémorables, qui montre la photo de Nouche Éluard, qui était la femme de Paul Éluard, qui est morte et qui a entraîné la création de ses poèmes, puisque grâce à Jacqueline Truttat, la femme d'Alain Truttat, qui a été le patron de France Culture pendant longtemps, elle a accueilli Éluard et il lui a écrit des poèmes pour la remercier, qui sont parus sous le titre de Corps mémorable. Et donc moi j'ai eu cette chance extraordinaire quand on voit ce livre paru en 1957, quand j'ai 23 ans, c'est le Carré d'As.
Picasso, oui, Cocteau.
Picasso, édition Seguer, ça on ne pouvait pas trouver mieux.
Et puis, vous les avez aussi rencontrés à ce moment-là.
Oui, sauf Éluard. Il y a qu'Éluard que je n'ai pas connu.
Et là, il y a deux pièces comme ça dans l'exposition, deux ou trois.
Aluminium, oui.
Un tirage sur aluminium.
Oui, c'est de l'aluminium anodisé. C'était fait à Aubagne. Et figurez-vous qu'à Aubagne, c'est là qu'on fabriquait la plus grosse quantité de gélatine pour la pellicule photographique. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours, mais... ce produit n'existe plus, mais à cette époque-là, j'en ai fait un peu. C'est pas facile à tirer parce que c'est énorme, ça fait 2 mètres. C'est donc 4 panneaux de 1 mètre sur 65 cm. Il faut pouvoir les développer en même temps pour avoir la même qualité. Enfin, c'est pas simple. Mais bon, voilà, ça existe.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce tirage sur aluminium ?
C'était essayer des techniques nouvelles, c'était essayer des supports différents. C'est compliqué l'aluminium parce qu'il ne faut pas l'éclairer. Il faut qu'il prenne la lumière qui vient d'ailleurs. Voilà, il va falloir que je voie un peu avec l'éclairagiste. Mais je crois qu'il a compris d'ailleurs, parce qu'il ne l'a pas éclairé directement. Donc ça va, c'est bien. Voilà, et donc ça se termine donc, sur une note plus gaie, celle de la vie, la célébration de la femme. Et j'espère que les gens auront la patience d'arriver jusque-là. Mais en tout cas, les gardiens se disputent pour garder cette salle, évidemment.
Je n'avais pas remarqué, M. Klern, que c'était le tirage sur aluminium qui est au fond de cette salle. C'était les géantes ici présentées. Je n'avais pas...
Oui, on a fait une espèce d'écho.
Des clins d'œil.
Oui. Ah ben, c'est bourré de petites choses comme ça, de même que la pelle là-bas au fond du maïs, et quand on est avec le maïs, on a la pelle de ce nu qui a été la couverture de La Vague, mon livre le plus célèbre. Enfin, et c'est qu'elles se parlent entre elles, quoi. Les photos se parlent entre elles.
Ben oui, bien sûr, elles communiquent. Alors, il n'y a pas toute la dernière partie de votre travail.
Ah non.
Parce que là, on ne pouvait peut-être pas tout mettre non plus.
Oui.
Mais là, il y a une unité autour des thèmes en question, en noir et blanc.
Moi, l'unité, c'était la Camargue. Voilà. Et en noir et blanc, puisque Yann-Arthus Bertrand expose en bas en couleur. Donc, il fallait vraiment faire une différence entre nous. Et ça me permet de montrer, justement, dans une unité de lieu, comment on peut aborder des thèmes essentiels. La vie, la mort, les quatre éléments, c'est là. Et depuis, j'ai travaillé, j'ai fait d'autres choses, mais on les verra ailleurs.
Bien
puisque
sûr.
Je dois exposer, à partir du 4 juillet à Aix-en-Provence, les photos de Picasso, et à partir du 7 juillet, à l'abbaye de Montmajour à Arles, pour les 40 ans des rencontres de la photo, justement les travaux récents de surimpression. Donc... Enfin, les visiteurs devront faire un petit tour de France pour tout voir.
Bon, on va venir la voir alors.
Avec plaisir, merci.
Merci, Monsieur Klern.
Je vous en prie.
Retrouvons maintenant Anne Clergue, commissaire de l'exposition, pour la partie consacrée au photographe Lucien Clergue de l'Académie des Beaux-Arts.
Anne Clergue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de l'exposition, d'une partie de l'exposition L'été contemporain à Marmottan, et vous êtes responsable, commissaire de l'exposition consacrée à Lucien Clergue, photographe de l'Académie des Beaux-Arts. Sont présentées une centaine de photographies, à peu près, qui couvrent une période et une partie de son œuvre, tout en noir et blanc, autour de quatre grands thèmes, la vie, la mort, les quatre éléments. Et vous êtes le commissaire de cette exposition, vous êtes agent d'artiste. Qu'est-ce que vous avez voulu faire pour cette exposition? Vous avez un petit lien de parenté avec Lucien Clergue.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'en ai un très direct d'ailleurs, puisque je suis sa fille. Bah, écoutez, quand on a su donc le choix du musée Marmottan se tourner vers les deux académiciens photographes, le musée Marmottan a fait appel à moi en tant que commissaire pour choisir les photos donc, et s'occuper de toute l'organisation de cette exposition, qui, c'est vrai, est une très grosse exposition. Et en fait, bien évidemment, nous avons fait le choix ensemble, avec mon père dans son atelier. Mais c'est un travail de longue haleine parce que le musée est assez vaste, les salles sont grandes et nous voulions absolument qu'il y ait une cohérence avec Monet. C'est la raison pour laquelle l'exposition commence avec des étangs et Lucien Clergue a photographié les étangs autour d'Arles dans les années 50 et c'est des magnifiques tirages, d'ailleurs des grands tirages qui ont été faits à Paris. Et ce sont des photos qu'on connaît assez peu, qui n'ont pas été souvent exposées. Mais notre vœu, c'était surtout de s'attacher à son travail que j'appellerais le travail originel, un peu la base de son travail, c'est-à-dire le marais d'Arles, les charognes, la Camargue en hiver sous l'eau, avec les vignes qui ressemblent à des petits monstres, avec les maïs séchés qui sont finalement extrêmement contemporains, avec les petites herbes dans les marais qui sont un peu comme une écriture à la Michaud, et toute cette genèse de la vie, de la Camargue, de son pays natal, qui est vraiment la substantifique moelle de son travail, je dirais.
C'est la première fois que vous travaillez sur une exposition pour votre père.
Absolument. Alors c'est vrai que je connais assez bien son travail, mais dans cette exposition précisément, moi-même j'ai découvert, je suis allée chercher des photos que je ne connaissais pas. Je voulais qu'il y ait des photos inédites, qui n'ont jamais été exposées. Et j'ai vraiment cherché dans l'atelier, avec son aide bien sûr, à avoir quelque chose de très fort.
Vous pouvez nous donner un exemple de photographie inédite là?
Dans les étangs, là, il y a cet étang-là auquel j'ai vraiment poussé, celui avec la mousse, j'ai vraiment poussé pour qu'il soit là. Et puis bon, ça s'est toujours fait de façon très agréable, mais parfois le choix entre deux photos, il me disait alors qu'est-ce que tu en penses, celui-ci ou celle-ci? Ah, j'ai dit non, pas celui-ci, celle-ci. Mais tu es sûre, mais moi je voudrais. J'ai dit non, le commissaire, c'est moi, donc c'est celle-là. Bon, d'accord. Bon, c'était évidemment des bonnes photos toutes les deux, mais voilà, c'est important d'avoir un regard différent qui n'est pas toujours celui de l'artiste.
Et en plus, c'est aussi un regard un peu particulier, puisque c'est le regard de quelqu'un qui était un intime de la
oui,
vie
oui,
de
oui, bien sûr, mais c'est vrai que Klimt. Je connais quand même assez bien son travail. Mais ce qui est assez extraordinaire avec lui, je dois dire, c'est qu'il est tellement renouvelé, il est tellement dans une création perpétuelle que forcément, il y a des milliers de photos de lui que je ne connais pas. Mais c'est normal. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Mais c'est vrai que sur cette exposition, ce qu'il a voulu montrer aussi, c'est donc que le travail noir et blanc, puisque Yann Arthus Bertrand est en couleur, et puis surtout les différents supports qu'il utilise dans la photographie. Donc bon, bien sûr, les tirages, ce sont tous des tirages argentiques, mais il y a des tirages vintage, donc qui datent des années 50, et ce sont vraiment des trésors, puisque ce papier n'existe plus, ça c'est sûr et certain, à son grand désespoir, bien sûr. Et il a utilisé également des tirages sur aluminium anodisés qu'il a fait dans les années 60, qui sont exposés ici pour la première fois. Il montre aussi des tirages au charbon faits par l'atelier Fresson, qui est une technique extrêmement naturelle et qui conserve la photo pendant très 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 longtemps.
C'est quoi la particularité? Je ne connais pas.
C'est un secret de famille qui est transmis de génération en génération. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est au charbon et que c'est un procédé très naturel qui donne ce grain très particulier. On voit un nu dans la salle des nus, les ombres maritimes, et on peut avoir des couleurs différentes et on a une sensation très particulière, un peu de nature morte. Ce sont de très très beaux tirages. Voilà, et puis il y a un Polaroid. Et puis sinon, il y a des grands tirages sur aluminium.
Et puis, il y a deux petits courts-métrages.
Alors, il y a non seulement deux petits courts-métrages, mais il y a le film. Il y a le film qui s'appelle Lucien Clergue à la mort, à la vie, réalisé par Elisabeth Schlumberger, qui passe en boucle. Et comme c'est le DVD, en fait, ils ont rajouté en bonus, en effet, deux courts-métrages. Le drame du taureau qui avait été présenté à Cannes en 68 avec Delta de Sel, je pense. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans l'univers clerguien par excellence.
Et sur sa terre natale.
Absolument.
On va aller dans le couloir où sont présentés les nus et là où il y a aussi tout un mur consacré à Cocteau.
Oui, avec joie.
On est devant un texte de Jean Cocteau de 1960 qui est comme une grande dédicace, un texte qui vous est dédié, Lucien Clergue. Vous pouvez nous en dire deux mots et puis peut-être Anne Clergue nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'exposer ce texte et puis d'où il vient, qu'est-ce que c'est?
Oui, alors c'est un
Lucien
texte
Clergue.
Qu'il avait écrit en 1960 pour une exposition que j'avais à Düsseldorf en Allemagne. Alors, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il l'a fait sur un grand papier, donc c'est un format raisin, 50-65, et il évoque en particulier deux de mes thèmes favoris, les nus et le paysage camarguais. Donc, je pense que ma fille vous dira mieux pourquoi elle l'a mis là.
Anne-Claire, qui est commissaire donc, de l'exposition, quel était votre choix?
Écoutez, d'abord, ce texte s'appelle Lucien Clergue, poète photographe. Et je crois qu'en effet, ici, nous sommes tout à fait dans la poésie, puisqu'il s'agit de la section qui est consacrée au nu féminin avec Corps mémorable, qui est un ouvrage très, très important dans la carrière de Lucien Clergue, puisqu'il est illustré de poèmes d'Éluard, que Picasso en a fait le frontispice avec ce dessin, ce nu féminin. Et je crois que ce texte est tout à fait approprié, puisqu'il décrit véritablement le poète photographe. Alors c'est Lucien Clergue, poète photographe. Un vrai photographe est aussi rare qu'un vrai poète ou qu'un vrai peintre. L'objectif est un œil de verre sans autre valeur que n'importe quel œil stupide s'il ne transfigure pas ce qu'il regarde. Et je ne parle ni d'angle, ni de cadre, mais de phénomène qui fait, par l'entremise d'une machine, le photographe consommer l'étrange mariage du conscient et de l'inconscience, d'où naissent les monstres délicieux de la poésie. Lucien Clerc possède, après Cartier-Bresson, le privilège de transcender un modèle. Il nous montre avec ses nues maritimes la naissance de Vénus, avec un simple étang la mort d'Ophélie, bien que son lyrisme n'affecte jamais le style pittoresque ou poétique. Un nu reste un nu, un étang, seulement en voyageant à travers la nuit de Clergue, ils se dépaysent et prennent cette terre, l'étang, d'être vu par un échassier de Camargue, les nus par une mouette.
Pour finir, Anne Clergue, vous m'emmenez dans cette petite rotonde où sont exposées comme dans une arène quelques très belles photographies de Lucien Clergue avec les taureaux.
Oui, je dois dire que moi qui suis née sous le signe du taureau à Arles à 5h du soir, bien entendu ça me touche particulièrement. Et le fait d'exposer ces 5 photos dans une rotonde, ça donne vraiment une impression de chapelle ardente qui est assez bouleversante. Alors, bon, bien évidemment, il y a les pour et contre la corrida, mais là, je crois qu'on dépasse complètement ce genre de choses. Ça devient mystique, très spirituel, et c'est très impressionnant. Et puis surtout, le poème de René Char, qui est vraiment magnifique, que je vais vous lire parce qu'il est très, très court. « Le taureau, il ne fait jamais nuit quand tu meurs. » Cerné de ténèbres qui crient, soleil aux deux pointes semblables, fauve d'amour, vérité dans l'épée, couple qui se poignarde, unique parmi tous, essai de 1951. Voilà, et bon, c'est toujours Eros et Thanatos, la vie et la mort qui sont très très proches, qui se frôlent, qui se caressent, qui s'opposent, et finalement tout est dit, tout est pris et tout est donné, et voilà. C'est la boucle est bouclée.
Vous aviez assisté à des corridas avec
oui,
votre
bien
père,
sûr, bien
c'est
sûr.
Lui qui vous a initié.
Bien sûr, déjà, dans le ventre de ma mère, j'assistais à des corridas, c'est sûr. Et puis par la suite, en allant chez Picasso, le taureau a toujours fait partie de ma vie, je dirais. Et puis quand on est né à Arles devant les arènes, c'est difficile d'y échapper, mais c'est un plaisir, sans cesse renouvelé.
Merci Anne-Claire.
Merci à vous.
De nous avoir fait cette visite privée, presque, de l'exposition. Merci
c'est
beaucoup.
C'est vrai, merci à vous, au revoir.
Retrouvons Lucien Clergue.
Ce que j'apprécie beaucoup chez mon confrère Arthus Bertrand, dans cette présentation au musée Marmottan, c'est la façon dont il a glissé des photographies, des grands tirages dans les salles de peinture. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on a l'impression que ces photos elles sont là depuis toujours. Donc il y a une harmonie, ça s'accorde. Et je ne dirais pas que je suis jaloux, mais je trouve que c'est une très bonne idée et que j'applaudis totalement pour ça. Et d'autre part, évidemment, sa vision de Paris, vue d'en haut comme ça, c'est toujours impressionnant parce qu'on se dit, on se pose des tas de questions. On se dit, les architectes qui ont conçu ces choses-là, est-ce qu'ils ont pensé à cette vision-là ? Et donc, c'est une vision supplémentaire qui s'ajoute à leur concept. Et c'est toujours une véritable révélation. Alors évidemment, il y a des choses qui ont été faites pour ça. Il y a des motifs décoratifs qu'on voit et qui ont été faits pour être vus de haut. Mais il y en a, je pense que si les architectes pouvaient revenir voir ce qu'ils avaient imaginé il y a plusieurs siècles, je pense qu'ils en seraient heureux et c'est nous qui avons la joie de le découvrir. Merci à mon cher Yann.
Vous ne photographiez pas Lucien Clergue Paris ?
Non, alors écoutez, Paris, moi, c'est pas mon... Je suis pas un photographe, je suis pas trop un photographe des villes. Hein. Quand je suis dans... Moi, ce qui m'intéresse dans Paris, c'est découvrir un lieu où je puisse mettre une femme nue qui dialoguera avec quelque chose de la... J'ai des amis qui ont une maison, un appartement tout près du Théâtre de l'Odéon. Et je me suis toujours dit que j'allais faire des photos, j'ai pas le temps. C'est quand je suis à Paris, je suis toujours trop bousculé. Et j'ai pas le temps de rêver. Mais voilà, donc j'ai plus travaillé à New York. J'ai fait beaucoup de choses à New York, d'une intimité new-yorkaise, des signes sur l'asphalte, etc., que je n'ai pas fait à Paris. C'est vrai que je n'ai pas été attiré par... Il faut dire que Paris a tellement été exploité par mes confrères photographes que je ne veux pas les concurrencer, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire de mieux. Quoi. Voilà.
Bon, merci. Un jour, peut-être, on découvrira le Paris de Lucien Clergue, on ne sait pas, on verra
qui
bien.
Qui sait, oui.
Voilà.
Oui.
Entre les sables
du jardin du Luxembourg sous les pavés ou,
oui, bien sûr. Voilà, non, on verra. Il y a sûrement à faire. Mais qu'est-ce que vous voulez ? J'ai plus beaucoup de temps et plus ça va, moins j'en ai. Voilà.
Merci, merci beaucoup. Retrouvons maintenant Yann Arthus-Bertrand de l'Académie des Beaux-Arts qui vient d'arriver sur les lieux de l'exposition.
Est-ce que vous avez une photo en tête de Monsieur Clerc ?
Je ne connaissais pas du tout le travail de Lucien sur la Camargue. Je connaissais bien tous ses nus. Moi, j'adore ses premiers nus. C'est vraiment l'histoire de la photographie. Donc, puis moi, j'ai découvert l'homme que je ne connaissais pas du tout. Voilà, que j'adore.
Et est-ce qu'il y a une photo en particulier qui vous retient ?
Sur Lucien Clerc ?
Oui, oui. Ah
ben oui, c'est les flamants morts.
Oui.
Les flamants morts. Je suis un écolo pur et dur, moi. Donc, c'est une photo qui ne me rend pas en joie.
Oui,
voilà.
Surtout que vous avez photographié autrement. Ce serait joli
non,
de mettre vos deux photographies en
écho. Lucien, il a une démarche un peu différente que la mienne. Moi, je ne me prends pas du tout pour un artiste. Moi, je suis vraiment un photographe témoin de son époque et plus comme un journaliste. Alors que lui a une démarche artistique qui n'est pas vraiment la mienne. Surtout qu'il vient d'ailleurs. Quoi. Il est avec toutes ces rencontres qu'il a eues avec Picasso, ses rencontres avec des artistes, des gens que je connais pas beaucoup. Et moi, Lucien Clerc, j'ai découvert longtemps après avoir fait de la photographie, puisque moi, je travaillais avec les lions. Et c'était les lions qui m'ont appris la photographie. Donc, j'étais vraiment sur un autre chose. Mais en plus, Arles, pour moi, était quelque chose d'inaccessible. Quelqu'un m'a demandé d'exposer à Arles parce que je faisais de la couleur, parce que je faisais du reportage qui n'intéressait pas les gens d'Arles. Donc, ça m'intéresse beaucoup de voir, en fin de compte, cette photographie artistique qui, d'ailleurs, maintenant est partie un petit peu ailleurs parce que les sources sont bien rejointes, ce que je fais moi et ce qu'il fait lui. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ensemble. C'est une photo qui marque véritablement. C'est l'histoire de la photographie, c'est ce qui m'intéresse. Et j'adore Lucien, mais moi, je préfère de loin tous ces nus à ces natures mortes. Voilà.
C'est pas les mêmes périodes.
Voilà.
Alors, à Paris, il y a peu de lions, mais enfin, il y en a dans les eaux, puis il y a le lion d'enfer. On est très loin de ces photographies que vous avez faites au début de votre œuvre. Là, au musée Marmottan, sont exposés des grands formats de Paris vu du ciel. C'est un travail que vous avez fait très récemment.
Alors, c'est un travail qui m'a été demandé par Lucien et Père Tadi, que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas faire d'autres expositions. Moi, je ferai un film bientôt là-haut, mais je ne voulais pas mélanger les choses. Et Tadi et Lucien Clerc m'ont dit, Yann, il faut que tu le fasses, tu ne peux pas nous laisser tomber. Je me suis fait engueuler tous les deux très fortement par les deux. Ne nous laisse pas tomber. Donc j'ai fait ça et je voulais pas re-exposer la Terre vue du ciel. Et comme je préparais un livre sur Paris et
qui sort en septembre,
on a trouvé quelques j'ai adoré ce travail sur Paris qu'on vient de faire parce que c'est un travail assez particulier, parce qu'un travail du très gros téléobjectif. Donc on a essayé de saisir des petits coins, ce que je fais d'habitude mais qu'on n'arrive pas à faire sur Paris parce qu'on peut pas descendre bas. Donc on a été obligé de travailler très gros téléobjectif et je suis assez content du résultat qui est un Paris qu'on ne connaît pas et qui est assez étonnant, qui est un Paris où on se perd un petit peu, on se demande où c'est. D'ailleurs, même les gens qui faisaient les légendes, l'architecte, pourtant qui travaille au pavillon de l'Arsenal, qui connaît soi-disant Paris par cœur, ben, il n'arrivait pas à trouver les endroits. Donc ça m'a amusé. Et puis on a fait aussi en même temps, en tournant Home, on se servait d'une caméra pour faire un film qu'on présente en même temps, qui est un film sans prétention, mais que j'aime beaucoup, parce qu'on voit que Paris est une très belle ville.
Un film avec les chansons de voilà, Paris que vous avez choisi.
C'était une idée du producteur Jean-Louis Remilleux avec qui je fais une émission de télé. C'est une très bonne idée. On l'a monté un peu vite, on va le retravailler encore un peu, mais c'est un film que j'aime beaucoup, tourné en haute définition, qui a une qualité d'image assez extraordinaire.
Et puis on voit la pyramide de Pei, justement, du Louvre, comme jamais, c'est vrai, sous avec les fontaines environnantes, on ne les voit pas vues du ciel. Et là, le film est très très beau.
L'intérêt de la photographie aérienne, et de son succès sans doute, c'est qu'on montre des endroits qu'on connaît bien tous les jours, qui nous sont familiers d'une façon tellement différente qu'on ne les reconnaît pas. On a tout à fait une autre vision. Et il faut savoir que depuis toujours, l'homme a rêvé de voler comme un oiseau, justement pour voir son monde vu d'en haut et prendre du recul. Et moi, c'est ce que j'ai la chance de faire. Et vous savez, tout ce qu'on voit, c'est vraiment des cadeaux que je reçois et que j'aime beaucoup rendre à tout le monde.
Yann Arthus-Bertrand, d'habitude, vous photographiez la nature, l'environnement, la beauté de la terre. Comment est-ce qu'on rend la beauté de l'urbain ? Vous avez aussi travaillé beaucoup sur plusieurs villes.
D'abord, il y a pas d'un côté les villes et le côté de la nature. Les villes font partie de la nature complètement. Elles sont fabriquées avec la nature. Elles se croient en dehors de la nature, mais pas du tout. Elles dépendent de la nature complètement. Un peu comme une fourmilière fait partie intégrante de la forêt. Ben, la ville, c'est la même chose. Donc, travailler sur une ville, travailler sur une forêt, la forêt amazonienne, pour moi, c'est la même chose. Ça ne me dérange pas. Je me sens aussi bien à l'aise et sur enthousiasme là-dessus.
Vous avez trouvé Paris coloré, vu du ciel ?
Non, pas beaucoup. Ben, y a un côté un peu grisounet sur Paris, comme toutes les villes d'ailleurs. Mais je travaille souvent avec les lumières du soir et j'essaye de rendre Paris beaucoup plus doré, de l'embellir. La photographie aérienne, ça embellit toujours les choses parce qu'on les voit de loin, donc on voit pas la crasse d'une ville. Voilà.
Il y en a une qui a votre préférence, je suppose que non, mais...
J'aurais bien aimé qu'ils mettent celle-là en bas, celle-là en haut. Là, avec j'adore cette photo-là, et malheureusement, ils l'ont mise trop. Je vais la faire changer, d'ailleurs, je vais la faire mettre ailleurs.
C'est un parvis.
C'est l'intérieur de cour qui sont faits par les architectes, qu'on voit jamais vu d'en haut, quoi, normalement, voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce dessin, voilà. Alors là, j'ai appris que c'est Rougemont qui avait fait ça.
Oui, j'allais vous dire que votre confrère avait justement voulu, dans Paris, dans les années 70, mettre de la couleur sur la ville.
Oui.
Et
c'est celle
du milieu.
Voilà, exactement, oui. Il faut dire à Claire qu'il fasse de la couleur. Mais il fait de la couleur, maintenant. Moi, j'aurais bien aimé que Claire y montre ses dernières photos. C'est assez érotique, c'est assez rigolo. Je trouve que là, il y a un côté dans cette expo ici qui est génial. Hein. Je vais pas, soit clair, on va pas discuter sur. On sait que c'est un grand maître, mais moi j'aime bien voir ce qui est nouveau, quoi, ce qu'il est en train de faire. Et je regrette qu'il n'y a pas une confrontation avec ce jeune Claire qui avait 18 ans, qui travaillait sur son appareil photo sur la plage, et ce qu'il fait maintenant pour voir en 60 ans, quoi, comment il a évolué. Donc ça sera la prochaine expo.
Écoutez, on viendra vous voir.
Mais je suis très fier d'exposer avec Lucien. Voilà, ça me fait plaisir.
Merci beaucoup, Yann Arthus Bertrand.